Cela fait plusieurs mois que nous étudions ensemble, que nous méditons ensemble le grand discours de Jésus appelé le Sermon sur la montagne. Et nous sommes arrivés au dernier verset de ce grand enseignement de Jésus. Et je vous invite à lire donc dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 à 27. Matthieu 7. Versets 21 à 27, c'est la conclusion de ce discours de Jésus. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous voici arrivés au bout du sermon sur la montagne. Nous avons écouté cette parole du Seigneur Jésus pour ceux qui veulent le connaître, pour ceux qui veulent le suivre. Nous avons été touchés plus d'une fois, j'imagine, et parfois même touchés coulés, en plein cœur. Nous avons été éblouis aussi. Et peut-être avons-nous dit émerveillé, il n'y a que Jésus qui soit capable d'un tel enseignement, d'une telle hauteur de vue. Et nous voulons écouter à présent le Seigneur Jésus une dernière fois, avant que ne se referme cette page de son enseignement, avant que ne s'éteigne le son de sa voix, tantôt si bienfaisante, tantôt si dérangeante, dans ce discours qu'il nous adresse. Seigneur, qu'as-tu encore à nous dire? Quel dernier mot nous laisses-tu? Ces derniers mots que le Seigneur nous laisse sont des mots de tempête, mais aussi de grand calme. Sont des mots de ruine, mais aussi de solidité à toute épreuve. On est là sur une ligne de crête, entre un abîme et un ancrage solide, entre un désastre et une victoire, entre un rejet et une récompense. Entre ces opposés, un unique chemin. On le devine étroit, pas toujours discerné, mais il fait la différence, toute la différence, un abîme de différence. Et le sermon sur la montagne se termine ainsi sur un fil, pas d'envolée lyrique, mais un simple fil, pas de louange à la gloire de Dieu, mais à chemin étroit entre deux contrastes. Pas d'assurance tranquille, mais une question qui reste posée, tenace, dérangeante, mais certainement salutaire. Seigneur, qu'as-tu encore à nous dire? Quel dernier mot nous laisseras-tu? Ces mots, vous l'aurez remarqué, Jésus ne les adresse pas aux indifférents, mais il les adresse à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont touchés par son enseignement. Il concerne d'abord ceux qui disent, ceux qui parlent, ceux qui disent, et même ceux qui lui disent, et disent en l'occurrence des choses très justes, puisqu'ils disent à Jésus « Seigneur, Seigneur ». Et c'est donc à eux que Jésus adresse ses derniers mots. À nous donc aussi, je l'espère, de tous nos cœurs, de tout mon cœur, si nous lui disons « Seigneur, Seigneur ». Mais ces derniers mots, Jésus les réserve non seulement à ceux qui disent, mais encore à ceux qui entendent. Et c'est à partir du verset 24. Et plus précisément, à ceux qui entendent de moi ces paroles. À nous donc, qui avons entendu depuis des mois cet enseignement de Jésus. Jésus s'adresse donc à ceux qui disent, à ceux qui lui parlent, à ceux qui entendent, et pas pour les tranquilliser, pas pour dire « c'est très bien mes amis, vous me dites « Seigneur, Seigneur, soyez bénis, vous m'avez écouté, allez en paix ». À ceux qui lui parlent, à ceux qui l'écoutent, Jésus affirme plutôt « attention mes amis, respectez le chemin ». L'unique chemin qui vaille. À ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Dire à Jésus « Seigneur, Seigneur ». Bien des hommes, bien des femmes qui l'ont croisé, l'ont appelé, l'ont interpellé de cette manière « Seigneur ». Les évangiles nous le rapportent. Et quand on s'adresse à Jésus, quand ses contemporains s'adressaient à lui en lui disant « Seigneur », c'était incontestablement une marque de respect pour lui, une expression d'humilité devant Jésus, une reconnaissance de sa grandeur, une reconnaissance de son autorité. C'était dire de lui qu'il est le maître, c'était reconnaître qu'il a une puissance, qu'il avait des ressources hors du commun. Avec toutes ces nuances, on l'a appelé Seigneur. Et Jésus dit, oui, c'est bien, c'est très bien de m'appeler Seigneur ainsi. Mais attention, mes amis, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas une sécurité. Mais il n'y a pas que ceux qui ont côtoyé Jésus en son temps qui l'ont appelé Seigneur. Jésus parle ici aussi, en regardant plus loin, il parle de personnes qui agiront en son nom, qui parleront en son nom, qui même prophétiseront en se réclamant de lui. Il y aura donc chez ces gens une reconnaissance forte de Jésus, de la puissance de Jésus, de la qualité de son enseignement, puisqu'on s'en réclame. Jésus sera très certainement pour ces personnes une référence, dont on peut vraiment se réclamer, dont on veut presque prendre l'autorité sur soi, une puissance aussi que l'on peut invoquer. On ne dit pas de quelle façon, ni avec quelle vie, ni avec quelles intentions, mais incontestablement, Jésus est reconnu. Et c'est ainsi qu'on lui dit « Seigneur, Seigneur » et qu'on s'approprie son nom. Cette confession de la seigneurie de Jésus, on le sait, est la base de tout en ce qui concerne la vie chrétienne. Être chrétien, c'est confesser de sa bouche et croire en son cœur que Jésus est Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Romains 10, verset 9. Il a l'autorité sur toutes choses et donc sur notre vie aussi. Il s'est manifesté avec puissance comme le Seigneur par sa venue, par ses œuvres, par sa mort, par sa résurrection, nous l'avons rappelé. Il est le Seigneur, l'unique, l'incomparable, le premier, le dernier, le seul Seigneur. Et il se manifestera au dernier jour dans toute sa gloire, comme le Seigneur qui jugera les vivants et les morts. Il est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute loyauté humaine. Certains chrétiens, on le sait, ont payé de leur vie la confession « Jésus est Seigneur », là où l'empereur romain revendiquait ce titre pour lui seul au premier siècle de notre ère. Et aujourd'hui encore, nombre de nos frères et de nos sœurs payent cher cette confession à laquelle ils tiennent envers et contre tout, et malgré parfois de multiples persécutions. Confesser Jésus comme Seigneur, c'est donc la clé, la base de toute vie chrétienne. Je me souviens, lorsque j'étais tout jeune pasteur, je discutais avec une jeune fille du groupe de jeunes de Nîmes, groupe que nous animions ensemble avec Hélène. Et cette jeune fille me disait, « Écoute Thierry, tu sais, moi je demande pardon à Dieu pour mes péchés depuis que je suis toute petite. J'ai toujours fait ça. Qu'est-ce qui me manque ? Je n'ai pas l'impression vraiment d'être chrétienne. Qu'est-ce qui me manque ?» J'étais un peu perturbé par la question, jusqu'à ce que la lumière vienne. Et je dis, tu sais, c'est bien, c'est important, oui, de demander pardon. Mais est-ce que tu reconnais Jésus comme ton Seigneur ? Est-ce que tu lui donnes autorité sur ta vie ? Ou est-ce que tu cherches de lui simplement qu'il arrange les choses que tu as décidées et faites à ta façon, à ton envie, pour demander pardon et reprendre ta vie comme toi tu veux la mener? Reconnaître Jésus comme Seigneur. Et j'espère que chacun de nous, nous reconnaissons à Jésus cette place de Seigneur, en sachant qu'il l'a mérité par son engagement total pour nous sur la croix, où il a porté notre condamnation, où il a été abandonné, et grâce au triomphe de sa résurrection, qu'il atteste avec puissance comme Seigneur. Reconnaître Jésus comme Seigneur, donc la base de tout. Mais Jésus avertit, « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. » Jésus ne dévalue pas la confession, remarquez-le. Mais il avertit simplement qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Mais cet avertissement, Jésus lui donne un relief surprenant. Il s'adresse à tous ceux qui prononcent cette confession de foi, qui disent « Seigneur, Seigneur », cette confession si importante. Et il pousse l'exemple jusqu'à ceux qui, en faisant cette confession, opère des miracles, des délivrances. Et même avec tout cela, souligne Jésus, dire « Seigneur, Seigneur » n'est jamais en soi une garantie, n'est jamais en soi une assurance. Car certaines personnes qui auront confessé Jésus de cette façon-là entendront Jésus en tout Seigneur qu'il est, leur adresser sa confession à lui au dernier jour. Et c'est le même mot de confesser qui est employé pour Jésus qui parle et pour ces hommes qui disent « Seigneur, Seigneur ». Au dernier jour, celui du jugement, celui de la vérité sur toute chose. Et cette confession de Jésus à l'égard de ces personnes sera terrible. « Je ne vous ai jamais connu, jamais connu, retirez-vous de moi ». Tout semblait les accréditer, leurs paroles, leurs références constantes à Jésus, leurs actes puissants. Malgré tout cela, il manque ce qui, pour Jésus, est une réalité incontournable qui doit absolument accompagner la confession de Jésus comme Seigneur. Ils n'ont pas fait ils n'ont pas accompli la volonté de mon Père qui est dans les cieux, dit le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas accompli la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ils ont dit, Seigneur, ils ont accompli toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas fait la volonté du Père. Ils ne sont pas soumis à ce que le Père désire. Ils ont commis l'iniquité, leur dit Jésus. Ils se sont écartés de la loi de Dieu, de ses commandements. Et de ce fait, la confession de Jésus Seigneur se termine pour eux en désastre abyssal, parce qu'ils manquent l'obéissance concrète à Dieu, la soumission simple mais réelle à sa volonté pour l'accomplir. Et c'est sur cette note que Jésus termine son sermon sur la montagne. Il dessine un abîme, là où on attendrait un sommet, un couronnement. Vous m'appelez Seigneur, c'est magnifique. Et cela concerne non pas les autres, mais ça nous concerne nous tous. Nous tous qui disons à Jésus, Seigneur, Seigneur. Nous sommes tous concernés. Dire à Jésus, Seigneur, nous place entre un sommet, entrer dans le royaume de Dieu, et un abîme, l'entendre nous dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et pour conduire au sommet et éviter l'abîme, il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin. Accompagner notre confession d'une vraie soumission à la volonté du Père, d'une vraie obéissance à sa parole. À l'image de Jésus, qui a recherché toute sa vie à vivre dans l'harmonie du Père et qui s'est soumis de cœur à sa volonté et s'est engagé concrètement pour accomplir cette volonté, quel qu'en soit le prix. N'imaginons donc pas que nous pourrions nous dispenser de notre cohérence et nous contenter de dire Seigneur tout en vivant notre vie à nous. Si Seigneur n'est qu'un mot dans notre bouche et n'a pas de réalité dans notre vie, c'est l'abîme qui nous attend, nous dit Jésus, je ne t'ai jamais connu. Si au contraire, cette parole, cette confession s'accompagne d'un authentique désir de plaire à Dieu, d'une authentique soumission à Dieu, d'une authentique volonté que Dieu nous transforme, d'une authentique prière que Dieu nous aide à faire sa volonté, car nous savons très bien que nous n'y arriverons pas tout seuls. D'authentique confession également de nos écarts, lorsque nous sommes écartés pour recevoir son pardon, mais pour nous remettre aussi sur le droit chemin. Alors, dire à Jésus Seigneur, bouchera sur la grâce de son pardon, sur la grâce de son accueil, sur la grâce de son salut éternel, sur la grâce d'entrer dans le royaume de Dieu, cette entrée largement ouverte qu'il veut nous réserver. Mais Jésus, pour nous en parler, nous place entre ce sommet et un abîme. Et le chemin qu'il dessine pour nous est le chemin de l'humble accomplissement de la volonté du Père. Appliquez-vous à cela. Si vous me dites « Seigneur, Seigneur », marchez pas à pas dans cette voie si vous me dites « Seigneur, Seigneur ». C'est humble. Vous ferez peut-être moins de bruit que d'autres, moins de bruit aussi que ce téléphone. Vous aurez peut-être moins d'autres reconnaissances que ceux qui auront fait des miracles en se réclamant de moi. Mais rappelez-vous, le vrai critère de la foi est l'obéissance. Je connais ceux qui confessent ce que je suis et qui obéissent à la volonté du Père que je vous ai enseigné, nous dit le Seigneur Jésus dans ses derniers mots du sermon sur la montagne. Et Jésus tient le même langage à tous ceux qui écoutent sa parole. Il y a ceux qui confessent « Seigneur, Seigneur » et ceux qui écoutent sa parole. Là aussi, Jésus ne se contente pas de dire « Vous m'écoutez, c'est bien, c'est magnifique. » Ni même « Vous venez, vous revenez à moi pour recevoir ma parole, c'est bien, c'est magnifique. » Mais Jésus dessine là aussi, pour ceux qui l'ont écouté, deux possibilités. Soit de construire quelque chose qui tient contre vent et marée, contre vents et tempêtes, comme une maison fondée sur un rocher, soit d'aboutir, là encore, à une ruine totale, comme une maison qui a été juste posée sur une couche de terre de quelques dizaines de centimètres, qui semble dure et solide en été parce qu'elle est sèche, mais qui, dès que l'eau tombe, devient glissante et emporte la maison à la première intempérie. Là encore, deux aboutissements radicalement différents et un contraste total que Jésus marque avec force. La différence entre d'un côté la solidité et de l'autre la ruine. Et la ligne de partage, là aussi, est tracée. C'est la mise en pratique. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique. C'est là la différence que Jésus trace. Et il nous faut bien discerner ici ce que Jésus enseigne. Jésus ne parle pas de la ruine qui attend ceux qui n'écoutent pas sa parole. C'est pourtant vrai. Ne pas écouter la parole de Jésus, c'est construire sa vie sur un fondement qui ne tiendra pas à l'épreuve du temps et surtout à l'épreuve de son jugement, même s'il a l'air d'être suffisant. Et Jésus s'adresse à d'autres personnes qu'à ceux qui n'écoutent pas. Il s'adresse à ceux qui écoutent la parole. Et il leur demande et il nous demande à nous, qu'allez-vous faire de ce que vous avez écouté? Si vous le mettez en pratique, vous bâtissez sur du solide. Mais si vous l'oubliez, si ça s'évapore, si cela n'impacte pas votre vie d'une manière concrète, vous aurez l'impression d'avoir bâti sur du solide, peut-être parce que vous avez écouté. Mais à vrai dire, vous construisez votre vie sur un terrain glissant qui peut à tout moment s'avérer instable et qui ne résistera pas ni aux tempêtes de la vie ni au vent du jugement. Il faut l'écoute, bien sûr. Jésus le dit, quiconque écoute. Mais l'écoute ne suffit pas à bien fonder sa vie. Car la clé, c'est la mise en pratique. La clé, c'est la mise en œuvre. C'est seulement là que la parole que l'on écoute devient un fondement, devient un roc capable de nous tenir. Et Jésus pulvérise ici tout le langage qui se veut rassurant et que tiennent ceux qui s'appellent eux-mêmes les non-pratiquants. J'ai la foi, mais je ne suis pas pratiquant. J'adhère totalement aux valeurs chrétiennes, mais je ne pratique pas. C'est du sable, nous dit Jésus. C'est du sable. C'est de la terre glissante. Ce n'est pas du rocher. Ça ne tiendra jamais lorsqu'il vous faudra un vrai appui. Un vrai fondement, ça ne tiendra jamais face au jugement de Dieu. Jésus refuse les non-pratiquants, totalement. Mais Jésus étend sa catégorie des non-pratiquants au-delà de notre terminologie à nous. Car pour nous, un non-pratiquant, c'est celui qui ne va pas à l'église. Pour Jésus, le non-pratiquant, c'est celui qui, comme nous, aujourd'hui, ce matin, va à l'église, qui, comme nous, écoute la parole, peut-être même tous les dimanches, mais qui se contente de cette écoute, qui se rassure de cette écoute, sans pourtant la traduire en acte, sans qu'elle ne change jamais rien dans sa vie concrète. Celui-là, nous dit Jésus, est un non-pratiquant. On est pratiquant que si l'on met en pratique. On est pratiquant que si l'on applique son cœur et ses actes à la parole de Jésus. Et seuls ceux qui mettent en pratique ce qu'ils entendent feront de la parole de Jésus un fondement pour leur vie. C'est seulement pour cela que la parole sera un fondement. Seuls ceux qui mettent en pratique ce qu'ils entendent bâtissent leur vie sur un rocher. Et voilà les derniers mots du Seigneur Jésus dans son sermon sur la montagne. Ces mots, reconnaissons-le, sont dérangeants. Ces mots, reconnaissons-le, nous bousculent. Ces mots, reconnaissons-le, nous questionnent, nous ôtent nos sécurités à bon marché. Et pourtant, nous nous étions demandé en les abordant, « Seigneur, qu'as-tu encore à nous dire ? Quel dernier mot nous laisseras-tu ? » Des mots en abîme et en hauteur. Ce qu'il faut voir pourtant, c'est que ces derniers mots du sermon de Jésus, en abîme et en hauteur, nous dessinent un chemin. Et c'est ce chemin que j'aimerais évoquer pour terminer. Ce chemin, c'est d'abord celui d'une authenticité, un chemin d'authenticité. Jésus ne veut pas que ses disciples s'abîme dans une surenchère faite de paraître, d'affirmations grandiloquentes, de déclarations ou même d'actions fracassantes, mais qui ne correspondraient pas à un vécu réel et authentique. La foi chrétienne n'est pas dans le paraître. La foi chrétienne n'est pas dans ce qui en jette plein les yeux. La foi chrétienne n'est pas, ne devrait pas être dans les discours qui ne seraient que du creux. Mais c'est un appel à l'authenticité, un appel à l'authenticité, à une vie unifiée. C'est une exigence, certes, mais c'est surtout un beau cadeau. On est tellement mieux quand on n'est pas coupé en deux, entre des proclamations surdimensionnées et une réalité de notre vie toute maigrichonne. Jésus nous invite à aller vers une unité de notre personne, plus modeste probablement, mais tellement plus authentique, tellement plus bienfaisante. Cette unité de la personne qui se manifeste par des actes concrets, cohérents, entre ce que l'on dit, ce que l'on peut mettre en œuvre. Cette unité à laquelle il nous appelle, il nous en donne aussi les moyens. Il veut agir en nous pour produire le vouloir et le faire, pour nous faire produire de bons fruits, comme il en parlait dans le sermon sur la montagne. Cette unité, il nous en donne aussi surtout les moyens en nous accueillant toujours par sa grâce, en nous accompagnant, en nous soutenant sur notre chemin, en nous relevant, en nous pardonnant, pour nous aider à marcher, à avancer sur ce chemin d'authenticité qu'il nous propose. La cohérence totale n'est pas la condition de son accueil, n'est pas la condition de notre acceptation devant lui. Nous sommes accueillis et acceptés par grâce et par la grâce seule. Mais cette grâce, elle doit nous mettre en chemin. Mais cette grâce, elle doit nous faire grandir, nous faire avancer pas à pas. Et il veut être pour nous celui qui avance sur ce chemin d'unification, de transformation de notre personne. Et ce chemin de transformation, ce chemin de sanctification, ce chemin de progrès, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Une belle marche à réaliser avec le Seigneur à nos côtés. Et c'est pourquoi Jésus nous le propose, ce chemin, un chemin d'authenticité. Mais ce chemin est aussi celui d'une humilité, d'une humilité. C'est volontairement que Jésus oppose ceux qui font des miracles et des grandes déclarations en son nom à ceux qui obéissent et qui simplement font la volonté de son Père. Jésus nous ramène ici aux fondamentaux. Et ces fondamentaux, ce sont les mêmes pour tous, les mêmes pour tous. Jésus nous ramène aux fondamentaux qui nous concernent tous exactement de la même manière. Comment traduire ma foi dans ce que je rencontre et dans ce que je vis chaque jour? Comment montrer ma loyauté, mon amour pour Dieu dans ce qui fait ma vie quotidienne? Comment vivre cela dans l'intimité de ce qui se passe dans mon cœur, tout comme dans le concret de mes actes? Jésus nous appelle tous, sans exception, sans distinction, à cette belle humilité du quotidien, cette belle humilité du quotidien, l'humilité des actes simples mais vrais, l'humilité des régularités simples mais qui font des lignes, l'humilité des petites pierres ajoutées les unes aux autres qui font des constructions qui tiennent. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, disait le prophète Michée, et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité du quotidien, des actes simples mais qui tiennent. Un chemin d'humilité. En nous proposant ce chemin, le Seigneur nous fait aussi, me semble-t-il, le cadeau d'un langage, d'un langage. Jésus a enseigné l'immense générosité du Père. Jésus sait lui aussi jusqu'où il ira lui-même dans son engagement pour nous. Devant tant de générosité, devant tant d'amour manifesté, on peut se sentir écrasé, incapable de la moindre réponse à la hauteur de ce que l'on reçoit, de ce qu'on en a reçu, de toute cette générosité de Dieu. C'est ce que l'on peut ressentir. Mais Jésus ne veut pas que nous ressentions cette impuissance, que nous ressentions cette paralysie. Et c'est pourquoi il nous ouvre le chemin d'un amour pour Dieu qui s'exprime dans les choses simples de la vie, qui s'exprime et d'une loyauté qui se dit dans l'obéissance des petites comme des grandes choses. Et c'est là que le Seigneur choisit de nous connaître, de nous reconnaître. Et c'est impressionnant de voir que, à ceux qui avaient choisi d'autres voies, le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Mais cela veut dire, à l'inverse, que chaque pas que nous ferons sur le chemin de l'obéissance, que chaque acte concret que nous ferons pour lui plaire, sera un pas, sera un acte qu'il reconnaîtra, dans lequel il nous connaîtra, il nous appréciera, qu'il acceptera, qu'il recevra, qu'il intégrera vraiment dans la relation qu'il établit avec nous. Jésus, dans son souci de l'obéissance concrète, nous donne aussi un langage qu'il accepte, un langage qu'il reconnaît pleinement. Enfin, en nous proposant ce chemin, le Seigneur veut donner à notre vie une solidité et des ressources que nous ne soupçonnerions même pas nous-mêmes. Voyez cette maison que Jésus décrit et qui résiste à la pluie, qui résiste aux torrents, qui résiste aux vents les plus violents. C'est moi ça, Seigneur ? Est-ce moi ça ? Ce n'est certainement pas toi, livré à tes seules ressources, mais c'est toi fondé sur moi, toi fondé sur le roc que je veux être pour toi. Tu n'es rien sans ce roc, et ce roc, c'est ce qui te tiendra. Tu pourras compter sur lui au jour de la tempête. C'est là ce que nous dit Jésus. Mais Jésus ne s'arrête pas à cette seule considération qu'il veut être, lui, le rocher de notre vie. Car il souligne aussi, me semble-t-il ici, la valeur de la mise en pratique de son enseignement, la valeur de la mise en pratique de sa parole comme un moyen d'affermissement pour nous. Autrement dit, c'est en agissant, c'est en apprenant jour après jour à agir de manière juste que tu te fortifieras toi aussi dans ton action. C'est en apprenant jour après jour à faire confiance à cette parole que tu te fortifieras toi aussi dans cette confiance. C'est en apprenant jour après jour à vivre de petites fidélités que tu te fortifieras toi aussi dans la fidélité. C'est en apprenant jour après jour les actes simples de l'amour du prochain que tu te fortifieras dans l'amour. La mise en pratique concrète de la parole de Dieu est une façon de nous construire bien sûr sur le roc de cette parole, mais de nous construire nous-mêmes aussi dans la mise en œuvre, dans la mise en pratique, et bien sûr d'être construit par le Seigneur qui nous accompagne dans tout cela. Et le Seigneur veut se servir de cette dynamique du concret quotidien pour nous donner nous mettre sur un fondement qui résiste, oui, le fondement de sa parole, mais aussi pour nous affermir nous-mêmes et nous permettre d'être une de ces maisons solides qui tiendra. Le Seigneur désire qu'en marchant sur ce chemin, nous découvrions une solidité que nous n'imaginions même pas. Et il veut nous construire lui-même de solidité en solidité, d'affermissement en affermissement. Mais pour cela, c'est le quotidien concret, c'est l'obéissance concrète. Et nous voilà maintenant tout à fait à la fin du sermon sur la montagne. Seigneur, qu'as-tu encore à nous dire? Quel dernier mot nous laisseras-tu? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que le Seigneur demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen.